Voilà. J'apporte des salutations de l'église mennonite d'Alkirch, dont je fais partie, dans le sud de l'Alsace, et puis également des salutations du centre de formation du Binnenberg, en Suisse, un centre de formation biblique porté par les églises mennonites et où je suis un des enseignants, donc salutations également de là. La raison de ma présence ici, c'est aussi que hier, dans ces locaux, avait lieu l'Assemblée Générale des Éditions Mennonites, qui publie le mensuel Christ Seul, et nous avons été accueillis par l'église de Darnay, de la Vosges, pour vivre l'Assemblée Générale annuelle. C'était un bon temps ensemble, et puis j'ai la joie de vivre le culte que nous célébrons ensemble ce matin. Je vous invite à, dans un instant, écouter un texte biblique ou à lire, mais avant ça, je voudrais prier avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Comme nous l'avons chanté et dit, Seigneur, nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Nous te demandons que nos cœurs soient ouverts à recevoir ta parole. Nous prions que nous ayons des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire ensemble ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à lire un texte du livre du Deutéronome. C'est littéralement la deuxième loi, le Deutéronome, première loi donnée par Dieu à son peuple au Sinaï, et puis juste avant que le peuple d'Israël n'entre dans la terre promise, Dieu a donné comme une deuxième version de la loi, dont nous lisons un extrait ce matin. Donc c'est comme si c'est Dieu qui parle à son peuple. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, lorsque tu en auras pris possession et que tu l'habiteras, tu prendras des prémices de tout le fruit de la terre que tu recueilleras de ton pays, celui que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu choisira pour y faire demeurer son nom. Tu iras vers le prêtre qui sera en fonction en ces jours-là et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui au Seigneur ton Dieu que je suis entré dans le pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner. » Le prêtre prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Et toi, tu diras devant le Seigneur ton Dieu, « Mon père était un Araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de gens pour y séjourner en immigré. Là, il est devenu une nation grande, forte et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, affligés et soumis à un dur esclavage. » Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Le Seigneur nous a entendus et il a vu notre affliction, notre peine et notre oppression. D'une main forte, d'un bras étendu, par une grande terreur, avec des signes et des prodiges, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a amenés dans ce lieu et il nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, j'apporte les prémices du fruit de la terre que tu m'as donné, Seigneur. Tu les déposeras devant le Seigneur ton Dieu et tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'immigré qui sont en ton sein pour tous les biens que le Seigneur ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison. Après la galère de l'esclavage en Égypte, après la galère du désert entre l'Égypte et la terre promise, après aussi la galère de la manne au quotidien, tous les jours la même nourriture, après tout cela, les Israélites donc sont sur le point d'entrer dans cette terre que Dieu leur a promise. Ils sont quasiment devant le but donné par Dieu, une terre où coule le lait et le miel. Et juste avant que ça se passe, ils reçoivent cette loi qui leur dit ce qu'il faudra faire une fois qu'ils seront vraiment dans le pays. Et donc, ce qu'il fallait faire, on l'a lu, c'était lors de la première récolte, prendre les premiers fruits de la terre et les apporter à Dieu en signe de reconnaissance. Reconnaissance parce que Dieu leur a donné cette terre qui produit des fruits. Reconnaissance pour le chemin parcouru jusque-là. Reconnaissance parce que tout cela vient de Dieu qui leur donne les fruits de la terre. Et puis, il devait donc donner, on l'a entendu, les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, pas les derniers fruits de la récolte ou de la moisson, mais les premiers. Comme pour dire, Dieu servi en premier. Dieu premier servi. Et donc, l'Israélite récolte les produits du sol, les met dans une corbeille, les apporte au prêtre, qui les présente à Dieu, et raconte tout ce parcours, et puis ça se termine par une fête, avec le Lévite, c'est-à-dire le prêtre, et l'immigré qui est en Israël. Une fête pour célébrer ce qui vient de Dieu, et que les premiers fruits montrent, célébrer le fait que les Israélites n'avaient pas de terre, ils en ont une. Ils étaient des esclaves, ils sont libres. Ils étaient opprimés. Ils ont trouvé la liberté grâce à Dieu. Donc pour tout cela, ils remercient le Seigneur. Pour nous mettre dans leur situation, on peut peut-être s'imaginer la situation de réfugiés syriens ou irakiens aujourd'hui. Des gens qui sont arrivés ces temps dans notre pays. Et peut-être que dans 10 ans, ces gens-là pourront se souvenir de la galère en Syrie et en Égypte, en Irak, par exemple, ou ailleurs, de la galère de la traversée de leur pays jusqu'ici, avec tous les risques courus, de la galère de l'installation dans un nouveau pays dont on ne parle pas la langue, etc., etc. Et avec le recul, ils pourront un peu se souvenir de ce moment où peut-être ils ont réussi à décrocher un emploi, à obtenir leur premier salaire. Et s'ils sont chrétiens, ils pourront se souvenir qu'ils auront dit merci à Dieu pour ce moment où ils trouvent une meilleure situation. Peut-être que c'est un peu quelque chose comme ça que les Israélites avaient vécu à l'époque. En tout cas, nous apprenons dans ce texte que être reconnaissant, c'est un aspect important de la foi en Dieu. Être reconnaissant pour ce qui vient de Dieu, ce que Dieu a donné. Être reconnaissant, je crois que c'est bon pour la foi. Ça nourrit notre foi, ça la cultive, notre foi, ça l'entretient. Un chant un peu ancien a ces paroles, « Compte les bienfaits de Dieu, mêlez tous. » Allez, ensemble.
Tu verras en adorant combien la nombre est grande.
D'accord. On va le chanter tout à l'heure. Mais je redis les paroles pour qu'on les mesure bien. Compte les bienfaits de Dieu. À les enfants, on peut, il y a des gestes, je crois, avec ce chant, compter, etc. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, mets-les devant tes yeux, les bienfaits, les bonnes choses qui viennent de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Je crois que quand on fait cela, compter les bienfaits de Dieu, une manière de travailler, d'exercer notre reconnaissance, je crois que ça nourrit notre foi, ça fait du bien à notre foi. Et alors, je vous propose de faire ensemble ce petit exercice de compter quelques bienfaits de Dieu. On l'a déjà fait dans la prière partagée tout à l'heure, de dire merci à Dieu. Mais on va peut-être le faire maintenant, et je vais demander à Michel de s'avancer. J'ai besoin d'un volontaire qui va compter sur ses doigts. Chaque fois que quelqu'un dit un bienfait, tu comptes. Et puis à la fin, on va t'interroger sur le nombre. Donc, sois concentré. Ça va ?
Ça va.
Alors, à vous la parole. Des bienfaits, des bonnes choses auxquelles vous pensez, pour lesquelles il y a de quoi être reconnaissant. Pensez à quoi ?
Bah, à l'instant présent, pouvoir être là, comme d'être dans une prière, en toute liberté.
Ok. Dieu. Ok. D'autres ?
Nos enfants. Oui, pour les amis, j'allais dire la même chose, pour la famille qu'on a.
Les enfants, la famille ?
Bah, quand on est venu de Portugal tout seul, c'est rien, parce qu'on est venu sans rien. Et voilà, et que le Seigneur nous a gardé beaucoup parce que non seulement j'ai une grande famille, on a une maison, on a quatre enfants, c'est beaucoup de la
corde. Là, il y a beaucoup de choses, hein. il y a plus qu'une chose,
il y a plus qu'un bienfait.
D'accord ?
Non, mais c'est énorme chez moi, donc voilà.
Tu tiens compte, Michel ?
Oui, c'est bon.
Ok, d'accord. Quoi d'autre ? Vous pensez à quoi ? Spontanément, très vite.
Le jardin. Ça, c'est pour le jardin.
Le jardin, quoi d'autre ?
Les champs.
Les champs, les champs, la terre, ou les champs que l'on chante.
Le blé qui pousse.
Ok, ouais. Quoi d'autre ?
Les champs qu'on chante.
Les champs qu'on chante
aussi. L'autre, oui. Quoi d'autre ?
Le travail.
Le travail. Un travail.
La retraite.
La retraite.
La santé.
La santé.
La paix.
La paix.
L'école.
L'école.
Surtout pendant les vacances.
Les vacances. Les vacances. Oui.
L'amour.
L'amour.
Ah, ça.
Avoir de quoi manger.
La nourriture, ah,
ça,
chaque jour.
Ça, c'est un privilège.
C'est ça.
Il y a le chauffage.
Le chauffage.
Chez nous, il y a un verset sur la cheminée. Elle a mère sans enfant. Il a donné une famille nombreuse. C'est nos trois enfants adoptés. Et c'est... C'est un... bénédiction du Seigneur.
C'est ça.
Mais avant, il fallait qu'on se rende.
Oui.
Bénédiction.
Voilà, on pourrait continuer l'exercice. On va voir si Michel a tenu un compte.
21. Voilà, tu as un truc.
Ah oui, il y en a plus.
Là, t'as un rameau.
On pourrait continuer. On pourrait continuer. Ça donne un échantillon.
Ça donne déjà comme ça.
Une idée, oui.
Merci beaucoup.
Mais toi aussi, hein, tu pourrais dire ici.
On pourrait continuer.
J'ai pas compté.
Oui, on pourrait certainement continuer, mais je pense que c'est un exercice peut-être qu'on peut pratiquer même dans sa vie personnelle et dans sa prière personnelle, que de nommer les bienfaits de Dieu dans tous les domaines, et ça peut être des bienfaits matériels, comme les Israélites apportaient les fruits de la terre, ou des bienfaits immatériels, comme l'amour, la paix, tout ce qui nous vient de Dieu. J'ai aussi conscience que peut-être nous tous ici, nous ne pouvons pas nommer tous ces bienfaits et que parfois il y a des choses que nous n'avons pas ou que nous traversons des tempêtes. Mais malgré tout, je pense que les uns et les autres, nous avons de quoi être reconnaissants. Être reconnaissant, je l'ai dit, ça nourrit la foi. Mais nous voyons aussi dans le texte que ça nourrit la joie. On l'a même vu là dans ce petit temps d'exercice partagé. Ça nourrit la joie, ça, comme ça naturellement. Et on l'a vu, le texte que nous avons lu se termine par la fête. Le texte dit « Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'immigré qui sont en ton sein, pour tous les biens que le Seigneur ton Dieu t'a donnés, à toi et à ta maison. Être reconnaissant, ça nourrit la joie. Et même les psychologues le disent. J'ai lu une étude qui est basée sur une enquête qui a été faite il y a quelques années, où des psychologues ont fait une expérience avec plusieurs centaines de personnes et ils ont proposé l'exercice suivant. Un premier groupe de personnes devait noter chaque jour toutes ses expériences quotidiennes. Un deuxième groupe de personnes devait noter chaque jour juste les expériences désagréables. Un troisième groupe devait noter les bonnes expériences pour lesquelles être reconnaissant. Et au bout de 10 semaines, des psychologues et des médecins ont examiné ces personnes dans leur santé physique et mentale. Eh bien, les personnes du troisième groupe, celles qui avaient noté juste les sujets de reconnaissance, se portaient mieux, étaient moins stressées, dormaient mieux, avaient une meilleure forme. Donc, on pourrait dire, les psychologues nous montrent que la reconnaissance, ça fait du bien même à notre santé. Cela dit, pour nous, comme croyants, chrétiens, notre raison pour être reconnaissant, c'est plus profond que cela. Ça nous fait du bien, tant mieux. C'est du bonus. Mais notre raison d'être reconnaissant est plus profonde. La raison est la suivante. C'est qu'en étant reconnaissant, nous rendons à Dieu, par la reconnaissance, ce qui lui revient. Nous disons comme les Israélites, « Tu nous as donné, nous t'en remercions ». C'est parce que nous voulons rendre à Dieu ce qui lui revient que nous sommes invités à être reconnaissants. Et dans le texte, c'est intéressant, littéralement, il est dit « Le Seigneur nous fit venir dans ce lieu et alors je fais venir les prémices des fruits de la terre ». C'est le même verbe. Le Seigneur nous a fait venir, je fais venir l'offrande des prémices de la terre. Dieu a donné, le croyant donne à son tour en retour. Lors de nos cultes, si nous le vivons ainsi, le moment dit de l'offrande exprime cela. Est-ce qu'ici, à l'église de Darney, pendant le culte, il y a un moment d'offrande ou bien c'est à la fin dans une boîte? C'est pendant le... D'accord. Et à l'église de Châtenois, c'est également le cas qu'il y a un moment d'offrande pendant le culte? Non? On peut mettre dans une boîte à la sortie le don qu'on voudrait faire. D'accord. Alors, il y a différentes manières de faire. Détendez-vous, si besoin. Cela dit, je donne mon avis. Je trouve que l'idée d'une offrande où nous donnons un peu d'argent à Dieu et à son Église pendant le culte, que nous recueillons, je trouve que ça fait sens. Pourquoi ? C'est le moment où nous disons ce que nous voyons aujourd'hui ensemble, c'est-à-dire Dieu nous a donné des salaires, Dieu nous a donné des revenus de différentes manières, et devant lui, dans sa présence, quand l'Église est réunie, en tant que communauté rassemblée devant Dieu, nous montrons notre reconnaissance, nous montrons que nous lui rendons une partie de ce qu'il nous a donné. Ça vient de lui, comme la terre pour les Israélites et les fruits. Nos salaires et nos revenus viennent de lui. Nous l'oublions souvent, mais en définitive, nous croyons que ça vient de lui. Nous montrons notre reconnaissance en le lui rendant par ce moment de l'offrande. Alors je sais qu'on peut pratiquer ça de différentes manières et aussi qu'on peut faire des virements permanents à l'église, mais je continue à croire que ça fait sens de vivre l'offrande pendant le culte, parce que c'est symboliquement quelque chose de fort. Nous disons en fait, Seigneur, tout nous vient de toi, le salut en Jésus-Christ, notre vie, les choses matérielles que nous recevons, nous te le rendons. Et nous te rendons ça comme une petite partie de nos vies que nous sommes invités à t'offrir. Paul l'apôtre disait, je vous exhorte à offrir vos corps, c'est-à-dire vos personnes, en sacrifice vivant. L'offrande, c'est le moment où nous montrons symboliquement que nous voulons apporter nos vies à Dieu, offrir nos vies à Dieu. Peut-être aussi que ces moments d'offrande, quand on les vit dans le cadre du culte, on peut peut-être aussi les redécouvrir, déjà se rendre compte un peu plus de ce que nous faisons alors. Et puis les personnes qui président les cultes, peut-être qu'elles peuvent aussi apporter un certain soin à ce moment de l'offrande. Je trouve que, par exemple, nos frères et sœurs africains, pour ceux et celles d'entre vous qui sont déjà allés sur le continent africain, nos frères et sœurs africains ont peut-être des choses à nous apprendre à cet égard. Souvent en Afrique, le moment de l'offrande, c'est le moment où on se lève et on s'avance vers le devant de l'église en chantant, en dansant, et on vient déposer son offrande quelque part. Peut-être que ça peut nous inspirer. Voilà, en tout cas, retenons de cela et de notre texte, que le Seigneur est généreux, le Seigneur est bon. Et c'est à lui que nous voulons dire notre gratitude par nos offrandes pour son royaume, pour son Église. En donnant à l'Église de notre argent, nous donnons en fait au Seigneur. Et nous apprenons à le faire en recueillant l'offrande dans nos cultes. Et puis cette idée des prémices que nous avons vues dans notre texte, peut-être pour nous aujourd'hui, c'est l'idée de fixer dans notre budget mensuel une part pour Dieu, pour son royaume, pour son Église, en premier, plutôt que de donner à Dieu, en dernier, ce qu'il nous reste. Dieu premier servi. La reconnaissance. Mais je pense que dans ce domaine de la reconnaissance, nous avons un problème. Et le problème que je crois voir parfois est le suivant, et je le vois chez moi d'abord, c'est le fait que nous sommes dans un monde et une société dite de consommation, peut-être même plus de consumérisme, comme on dit aujourd'hui, qui risque de nous faire oublier d'être reconnaissants. La publicité nous incite à croire qu'il nous faut toujours quelque chose de plus ou de mieux que ce que nous avons déjà. La mode nous incite à changer de look, à changer d'habit, à changer de voiture, à être dans le coup, la mode. Et puis, le marketing réussit à créer des besoins nouveaux. On nous suggère qu'il y aurait besoin d'autre chose, etc., etc. On pourrait développer ça beaucoup. Et puis, quand on est pris par la consommation, ça peut être parfois comme une drogue. C'est-à-dire qu'il nous faut une dose plus forte de consommation. On s'habitue à une certaine dose, comme des drogués peuvent parfois s'habituer à leur dose de drogue. Le consommateur peut s'habituer à sa dose de consommation qui ne lui suffit plus et il faut un objet ou un produit de consommation supplémentaire qui lui procure une dose supplémentaire de plaisir. C'est donc l'idée que dans le monde dans lequel nous fonctionnons depuis quelques décennies, on nous incite à toujours plus, toujours mieux, toujours autre chose. Et on peut réfléchir chacun à différents domaines où ça peut nous marquer. Pour ma part, je pense que le domaine où je dois faire le plus attention, c'est le domaine des livres. J'aime lire, j'aime les livres en tant que tel. Et la tentation est grande d'acheter toujours un livre de plus. Alors que, bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce bouquin, etc., etc. Bon. À chacun de réfléchir à son domaine ou ses domaines où parfois on se laisse embarquer plus loin qu'il ne faut. Le monde dans lequel nous sommes semble nous dire que nous sommes en manque permanent. Et si nous sommes influencés par cela, il me manque ceci, il me manque cela, nous sommes loin de la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, on pourrait dire qu'elle a comme un frère, qui s'appelle le contentement. Le contentement. Dans le dictionnaire, on nous dit que le contentement, c'est l'état de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Donc juste le contraire du consumérisme qui nous dit une chose de plus. Le contentement, c'est l'état de quelqu'un qui ne désire rien de plus. L'apôtre Paul écrivait à ce sujet : la véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, cela nous suffit, ou dans ma version, nous nous en contenterons. Parfois, je pense qu'il nous faut mettre une limite dans nos têtes, dans nos esprits, à cette tendance de la société à nous dire toujours plus, mettre une limite qui dit « Non, c'est assez, ça suffit, j'ai ce qu'il faut, stop conso, stop consommation. Je peux jouir de ce que j'ai, ça me suffit. » Et quand on fait ça, je pense qu'on peut retrouver un sens plus profond de la reconnaissance. Parce que, comme je l'ai dit, la reconnaissance et le contentement sont sœurs et frères. Mais je crois que la reconnaissance a encore un autre frère qui s'appelle le partage. La reconnaissance a un autre frère qui s'appelle le partage. La vraie reconnaissance à ce frère-là. Parce que je crois qu'il peut y avoir une fausse reconnaissance. D'abord, une fausse reconnaissance qui s'élève au-dessus des autres. Et là, je pense à la parabole du collecteur d'impôts et du pharisien dans l'Évangile, où le pharisien est reconnaissant lorsqu'il dit « Je te rends grâce, Seigneur ». Il est reconnaissant parce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts qui est vraiment pas terrible. Je te rends grâce parce que je suis mieux que l'autre. Fausse reconnaissance. Et puis, la fausse reconnaissance, ça peut être aussi celle du consommateur qui, une fois par an ou de temps en temps, célèbre Dieu pour ce qu'il reçoit et pour, surtout pour tout ce qu'il peut consommer sans partager. Sans partager. Mais donc, la vraie reconnaissance, c'est pas ça, elle a un autre frère, le partage, et je vous invite à écouter la suite de notre texte, deux versets encore dans le chapitre du Deutéronome. Lorsque tu auras achevé de prendre toute la dîme de tes revenus, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'immigré, à l'orphelin et à la veuve, ils mangeront et seront rassasiés dans tes villes. Tu diras devant le Seigneur ton Dieu, « J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, je l'ai donné aux Lévites, à l'immigré, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les commandements que tu as institués pour moi, je n'ai passé outre à aucun de tes commandements, je n'en ai oublié aucun. » Et donc, après avoir apporté les prémices aux prêtres, l'Israélite était invité à donner la dîme. La dîme, c'est-à-dire la dixième partie de sa récolte, ici, tous les trois ans. À qui devait-il donner cette dîme ? Aux Lévites, à l'immigré, à l'orphelin et à la veuve, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas de terre ou peu de terre, des personnes avec peu ou pas de moyens de subsistance, en tout cas des personnes en situation de précarité. Et c'est à ces personnes que l'Israélite, tous les trois ans, devait donner le dixième de ses revenus. Et donc c'est intéressant, le premier texte nous parle de la reconnaissance à Dieu, et juste après, le texte nous parle du partage avec ceux qui ont moins. La véritable reconnaissance a le partage comme frère. On pourrait dire qu'aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, les systèmes d'entraide et de redistribution collective sont comme un lointain écho de cette idée de redonner à ceux qui ont moins ce qu'on a reçu. Donc, on peut être reconnaissant pour la sécu, mais la sécu ne peut pas tout, elle a un trou. Pour nous chrétiens, je crois que donner de notre argent à ceux qui ont moins, ça fait partie de l'éthique chrétienne, ça fait partie du comportement du disciple du Christ. Pourquoi ? Parce que Dieu est juste, parce que Dieu souhaite que tous aient assez, et parce que Dieu souhaite que son peuple, l'Église, pratique la justice pour la guérison du monde. Jésus l'a dit dans ces termes, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Alors, les occasions de donner de notre argent pour ceux qui ont moins sont nombreuses. Parfois, on a presque trop de sollicitations. Il nous faut réfléchir et discerner où et comment nous pouvons et nous voulons donner de notre argent. Je mentionne quelques pistes à titre d'exemple et des pistes qui sont en partie proposées par les églises évangéliques ou les églises mennonites. Par exemple, dans le cadre des églises mennonites, chaque année à Noël, ce qu'on appelle la caisse de secours de nos églises mennonites de France propose une action de Noël pour un projet à soutenir ailleurs dans le monde. Nous pouvons contribuer à cela. Nous savons que ça passe par des canaux fiables et que les dons récoltés seront utiles. Le service d'entraide et de liaison, le SEL, propose par exemple des parrainages d'enfants où chaque mois on peut donner une somme d'argent pour le parrainage d'un enfant pour qu'il ait de quoi manger, peut-être des activités extrascolaires, voire même l'accès à l'école, et puis également un accès à entendre parler de Dieu et de l'Évangile. Et les récits sont nombreux de ces enfants qui ont été soutenus comme ça par des parrainages dans la durée et qui disent combien ça les a aidés et combien ils ont pu accéder peut-être à une formation et accéder à une vie meilleure dans leur pays. Et puis toujours dans... Enfin, même au niveau mondial, je pense à ce qui s'appelle le défi Miché, ou maintenant Miché France, qui est un peu sur un autre niveau, mais utile et intéressant, je le crois, où il y a des personnes issues des églises qui essayent d'interpeller les gouvernements en France et dans d'autres pays pour leur dire « Nous devrions, comme pays, et vous devriez, comme gouvernement, favoriser l'aide au développement pour réduire l'extrême pauvreté ailleurs dans le monde. » On peut donner et on peut aussi agir à un niveau, on pourrait dire, plus politique. Je crois que ça a aussi sa place dans une perspective chrétienne. Pour terminer, je vous invite à regarder une vidéo qui nous parle de partage. On va la regarder une première fois, je vais la commenter et nous la regarderons une deuxième fois. C'est très court. Au début, on voit qu'ils ont des très longues cuillères. On va regarder une deuxième fois. Hein. Ils ont des très longues cuillères, cuillères qui sont tellement longues que ça les empêche de se nourrir eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à revenir avec la cuillère jusque vers leur bouche. Du coup, ils se chamaillent entre eux, et c'est la guerre pour accéder à la nourriture, jusqu'à ce que quelqu'un se mette avec l'aide de la grande cuillère, très longue, à nourrir quelqu'un d'autre, qui à son tour peut me nourrir. Le partage permet à tous de vivre. Amen.